الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. شفاء الإسلام نغمي أسفى الله عز وجل qui nous donne la possibilité de nous réunir pour parler de son livre qui a été révélé, pour parler du livre d'Allah révélé sur notre prophète Muhammad alayhi salat wa salam, livre de vérité qu'Allah a, on va s'approcher inshallah, qu'Allah a destiné pour la Ummah, la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et kitab qui va rester, qui va perdurer jusqu'au qiyamah, et surtout qui va rester intact. Les mêmes contenus, les mêmes révélations, les mêmes choses, le même contenu khabar que le prophète alayhi salat wa salam a reçu, ce que les sahaba ridwanullahi alayhi majma'in ont vu de leurs yeux descendre, ils ont entendu de la bouche mubarak du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais les mêmes choses, les mêmes akhbar, les mêmes textes, mot pour mot, nous le retrouvons alhamdulillah après 1500 années. Ça c'est le miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu la hafidhun. Allah qui l'a garanti que ce Coran reste intact depuis le jour où il a été révélé. C'est-à-dire que lorsque le prophète alayhi salatu wa salam reçoit ce sourate At-Tariq was-sama'i wat-Tariq, et 1500 années après, nous à l'île de la Réunion, à la masjid al-Madina des Lataniers, nous essayons de lire ce verset, ce sourate, ces versets, nous essayons de commenter le sens de ces versets. Il faut qu'on sache, faut qu'on soit conscient qu'il fut une époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait les mêmes versets aux sahaba, à Abu Bakr, à Umar, à Uthman, à Ali, et que le prophète faisait le tafsir, le commentaire de ces versets. Subhanallah, on ne compare pas les deux majlis, mais c'est le prophète alayhi wa sallam le faisait, il expliquait comme Allah ta'ala lui avait révélé. Et nous, 1500 années après, nous héritons d'un modeste héritage, 1%, 1 millième, 1 millionième. Nous essayons, nous aussi, de rapporter qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit pour les sahaba, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais pour tous les musulmans également, jusqu'à la fin des temps. Et lorsqu'on s'assoit comme ça, hein, subhanallah, je vois les frères qui s'assoient, et je me suis parfumé avant le majlis, que je n'ai pas eu le temps de faire avant la salat. Là, je me suis dit, subhanallah, il est tellement important de se présenter dans ce genre de majlis avec de beaux habits, bien sûr, et avec un parfum agréable. Parce que, tout d'un coup, je me suis rappelé, c'est une réalité, mais on n'y pense pas parfois. C'est devenu tellement habituel que notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a expliqué qu'il y a des malaïka, il y a des anges qu'Allah ta'ala envoie dans le monde à la recherche de ce genre d'assemblée, à la recherche de ce genre de majlis où les gens s'assoient uniquement pour parler d'Allah et son prophète. Et lorsqu'ils ont trouvé ce genre d'assemblée, ben les anges y viennent, ils s'y concentrent et ils restent jusqu'à la fin. Et à la fin de l'assemblée, ils remontent et ils annoncent à Allah Azza wa Jalla. Allah, il connaît déjà. Mais Allah Ta'ala a créé ces malaïka dans ce but. Hein, ça, c'est la sunnah d'Allah de la création. Et ces anges, ils rapportent à Allah que dans tel endroit, il y a eu tel majlis, il y a eu des gens qui ont parlé de toi ou Allah, qui ont dit telle chose sur ton livre. Et ils rapportent à Allah Azza wa Jalla ce qui a été dit. Et à la fin, Allah Ta'ala dit que chaque personne qui était présent à l'assemblée, chaque personne aura ses péchés effacés. Et c'est pour ça que c'est une chance énorme que nous avons d'être dans ce genre d'assemblée. Et subhanallah, il n'y a pas besoin de faire passer des messages aux anges pour qu'ils ramènent à Allah, parce qu'Allah il sait ce qu'il y a dans nos cœurs, Allah il sait ce que nous disons, ce que nous prononçons comme parole, et ce qui est même caché dans nos cœurs. Mais s'il y a des anges qui rapportent à Allah Azza wa Jal ce qui a été dit de ce majlis, s'il y a des anges qui vont dire qui était là, ben nous souhaitons que ces malaïkas qui sont présents, qui écoutent comme nous cette assemblée, ben qui disent à Allah que ce soit il y a 20, 30, 40 personnes qui sont ici et nous recherchons le contentement d'Allah. Ben, et que nous demandons à Allah de nous accepter. Et que demandons à Allah que lorsqu'il enverra Malik al-Maud reprendre notre âme, qu'il reprend notre âme et qu'il nous annonce là le salam min Allah, le contentement d'Allah. Et nous demandons à ces anges de dire à Allah, ça c'est presque irrespectueux de dire de la sorte, et Allah il le sait déjà, que la seule chose que nous voulons c'est le contentement d'Allah, que lorsqu'on meurt et qu'Allah accueille notre ruh
qu'Allah soit satisfait de nous, qu'Allah pardonne les péchés. Parce qu'il n'y a pas une personne de cette assemblée qui n'accomplit pas de péché. Certainement, celui qui parle, c'est le plus grand responsable de ses actes. C'est peut-être également celui qui commet le plus d'erreurs. C'est celui qui aura le plus de hisab. Parce que chaque parole que la personne dit, si elle ne le met pas elle-même en pratique, c'est un hisab. En plus que vous, peut-être vous n'avez pas. Donc Allah pardonne chacune de nos erreurs parce que des péchés, Wallah musta'an, nous en faisons. Mais qu'Allah ait pitié de nous, pardonne nos péchés et qu'Allah nous accepte. Et qu'un jour, qu'Allah nous permette de nous réunir dans le Jannatul Firdaus, dans ce genre d'assemblée. Comme notre prophète Ali Salat wa Salam avait expliqué que dans le paradis, les mu'minines se rendent visite mutuellement et ils se rappellent des moments qu'ils avaient passés sur ce dunya. Que cette assemblée, que ce genre d'assemblée se répète, mais plus de le dunya, mais inshallah de l'akhirat, et qu'un jour, sous un des arbres du paradis, nous nous retrouvons pareil assis, et on se souvient des ayyam ou dunya, des bons moments qu'on a passés dans l'adoration d'Allah, mais également des moments de difficulté, de sabar, de ibtila et de ihtisa dont on a fait preuve pour avoir le contentement d'Allah et son paradis. Allahumma amin. Le verset qu'on a lu aujourd'hui, Innahu ala raj'ihi laqadir. On avait commencé le surat al-Tariq en rappelant qu'Allah Azza wa Jal fait qasam par le ciel et on avait expliqué pourquoi. Et nous verrons, peut-être aujourd'hui ou peut-être la semaine prochaine, qu'à la fin, ou alors au milieu, ou plutôt vers la fin du même surat, Allah Azza wa Jal va refaire qasam par quelque chose qui est propre au ciel. Il y aura donc deux qasam, deux fois où Allah va jurer par le ciel, on verra quelle est la portée de chacun de ces qasam. Donc on a vu wassama'i wa tariq, on a parlé du ciel, on avait parlé des étoiles, on avait expliqué pourquoi Allah Azza wa Jal crée des étoiles, on avait expliqué le rôle des étoiles par rapport aux shayatines, comment shaytan et les shayatines, ils peuvent entendre les akhbar, les nouvelles du ciel et les rapporter aux sahara, les rapporter aux devins, aux sorciers, aux, je ne sais pas comment on appelle ça, aux marabouts, pour dire aux gens et induire les gens en erreur. Tout ça on avait expliqué. On a vu également lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit « In kullu nafsin lamma alayha hafid » qu'il n'y a pas une personne, il n'est pas d'âme qui n'est sur elle un gardien. On a vu que ces fameux « kiraman katibina ya'lamuna ma taf'aloun » qu'il y a des anges qui inscrivent les péchés. Il y a des anges qui sont là, qui inscrivent les actions de l'homme, les bonnes comme les mauvaises. Il n'y a pas une parole qui nous prononcée, il n'y a pas une action qui est accomplie. Il n'y a pas une pensée qui effleure nos cœurs sans que ces anges-là n'en aient l'information par l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, par le pouvoir qui leur a été attribué. Et ces anges-là écrivent jusqu'à ce que Malik al-Maut reprenne notre âme. Et là, les livrets d'action sont pliés et les livrets d'action retournent auprès d'Allah selon certaines sources, sous le trône d'Allah et le jour du Qiyamah, de la résurrection. Chaque musulman reçoit son livret de compte, soit de la main droite, Allahumma ja'alna minhum, ou alors de la main gauche, de Yasundu, Nasallallahu salamata wa al-afiyah. Et c'est ça le dunya. Et c'est ça le but de notre création. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Passer notre vie dans l'adoration d'Allah. Et quand on dit adorer Allah, c'est faire les bonnes actions. Faire la salah, ça c'est l'action la plus importante, ça c'est le culte, la relation ta'abboudi entre l'être humain et son créateur. Et il y a les akhlaq, le comportement qu'on a dans la société, et celui qui est au-dessus, parmi les makhlouqad, celui qui a le plus de droits sur un être humain, c'est les parents. Huququl walidain. Il n'y a rien de plus important, on expliquait ça dans un discours de vendredi, aujourd'hui, qu'une personne peut faire beaucoup de salat, qiyamul layl, tilawatul quran, zikrullah, da'wa ilallah, beaucoup de bonnes actions. Une personne peut passer ses nuits dans la masjid, dans l'adoration, et ses matinées à faire le saum, à jeûner, des jeûnes nafil. Mais si cette personne quitte ce monde sans le contentement de ses parents, cette personne, il ressort les poches et les mains vides. Il n'aura jamais le contentement d'Allah, il n'aura jamais la foi complète, il ne sera jamais sur le sirat al-mustaqim, sur le droit chemin, et jamais il n'aura l'agrément d'Allah. Parce que c'est une personne qui n'a pas compris que la priorité, juste après le droit d'Allah, vient immédiatement le droit des parents. Donc, ce dina, mes chers frères, qu'on parle de liya'budoun, c'est faire les bonnes actions. Comme on a dit, ta'aboudi, le culte, le akhlaq, le mu'amala, le mu'ashara, c'est des points qu'on connaît, on a l'habitude d'en parler. Mais le culte, le liya'budoun, c'est également s'éloigner du haram. Parce qu'on ne peut s'approcher d'Allah uniquement en faisant de bonnes actions. Non. On ne peut s'approcher d'Allah uniquement en faisant de bonnes actions. Si on ne s'abstient pas des péchés, alors on fait du surplace. C'est comme si que je fais deux pas en avant et puis je fais deux pas en arrière. Certainement, il y a des actions qu'on accomplit, Inch'Allah, qui effacent les péchés. Parce qu'il ne faut pas oublier que par inadvertance, on accomplit des péchés. Il n'y a pas un être humain, si on mettait le compteur à zéro depuis qu'on s'est réveillé pour Fajr, jusqu'à maintenant, il y a un compteur de péchés, impossible que quelqu'un se présente le soir sur la Al-Isha sans qu'il y ait un péché sur son compteur. Ça, c'est impossible. Autrement, nous serions des anges qui voleraient dans le ciel. D'accord ? Ça, c'est impossible. Même les Sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, il leur arrivait de faire des erreurs, mais pas des erreurs graves. D'accord ? Et c'est pour ça qu'Allah Ta'ala a instauré, par exemple, les salats. Et par le biais de tahara du wuzu, en faisant le wuzu, l'eau qui coule, les péchés s'en vont. Et entre les salats également, les péchés sont annulés. D'accord ? Donc, qu'on comprenne bien que si je veux me rapprocher d'Allah, il y a deux choses. Il y a un, les bonnes actions à faire, les actions de manière complète, shamil, les catégories d'actions qu'on a citées. Mais il y a également un effort à faire sur le haram, s'éloigner au maximum du haram. Et ce qui a pu filtrer notre attention, les péchés qu'on a fait par inadvertance, ça, Inch'Allah, les salats, les tahara, ces actions-là, Inch'Allah, vont laver les petits péchés qu'on a accomplis par erreur. Mais à nous de faire attention de ne pas faire un péché volontairement, de ne pas programmer un péché, de ne pas, comme même dans le droit, le droit français, dans, je ne sais pas, peut-être dans le droit de tous les pays du monde, il y a deux catégories de meurtres. Il y a le meurtre, le plus grave, c'est quoi ? C'est le meurtre avec préméditation. Quand vous attendez quelqu'un avec votre fusil, qu'il sorte de chez lui, vous l'abattez de sang-froid, là, vous avez la perpétuité. Mais si tout d'un coup, il y a une rixe, une petite bagarre, et là, d'aller un coup de poing, et que la personne est tombée sur sa tête, je ne sais pas comment, et puis ça a touché quelque chose, la personne est décédée, vous allez en prison, mais vous ne prenez pas la perpétuité. Dans le dîn, je ne dis pas que c'est pareil, mais il y a des péchés qu'on accomplit vraiment par inadvertance, où on n'avait pas l'intention de le faire, et puis, qaddar Allah, ça s'est passé. On demande tawbah à Allah, et Allah, il connaît notre intention à la base. Mais quand le musulman projette de faire un péché, il a l'intention ici que, bon, samedi soir, on programme, on va aller à tel endroit, telle boîte, tel machin, avec tel ami, on récupère, je m'habille comme ça, je vais chez le coiffeur, la fashion, etc., etc. Comme ça, on prémédite le péché, ça c'est extrêmement grave. Ou que par exemple, je sais, exemple, bon, ça c'est pour. Mais plus proche de nous, pour les gens aussi pieux qu'il y a dans cette assemblée, par exemple, si on a des parents qui sont encore de ce dunya, qui sont encore vivants, alhamdulillah, je sais que le soir, ma maman m'attend, elle aimerait me voir, ou ça fait une semaine que je n'ai pas été voir ma maman, je me dis que non, celle-là, j'en ai marre, je ne vais pas aller la voir, je vais l'appeler, je vais envoyer quelque chose, etc. Là aussi, on est en train de préméditer un ruquq al-walidain. C'est intentionnellement que je suis en train de m'éloigner de mes parents, de m'éloigner des devoirs qui m'incombe par rapport à mes parents, etc. Pour qu'on comprenne bien qu'on doit faire le maximum attention à faire les bonnes actions, mais également à s'éloigner des péchés. Autrement, c'est comme une personne qui prend un médicament, un antibiotique, et qui juste après prend un poison ou quelque chose qui va lui faire du temps. Voilà. Donc, pour revenir au fil du tafsir, « Inna kullanafs lamma'aliha hafiz », donc ces fameux gardiens qui écrivent tout et écritures qui nous seront présentées et qu'on lira « Iqra kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba ». Ces écritures que les anges ont écrites durant toute notre vie. Belle joie de la résurrection, chaque musulman reçoit son livret de compte avec la date, avec l'heure, le moment précis où le péché a été accompli, où la bonne action a été accomplie. Et Allah dira à chaque personne de lire soi-même. « Kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba », c'est comme si que chacun est son propre juge. Afin que l'être humain se rende bien compte que Allah ne l'a pas opprimé, qu'il n'y a pas eu d'injustice, que je vois de mes propres yeux, c'est comme quand à la fin du mois, une personne a fait des chèques, il a dépensé, tiré l'argent, il a payé avec des cartes, et qu'à la fin du mois, il y a un dépassement de 3, 4, 500, voire plus euros. D'accord ? Ben, quand vous recevez votre relevé, c'est vous-même qui faites votre hissab. Vous voyez que le 17 avril, vous avez fait un chèque de 300 euros, le 18 avril, vous avez retiré 500 euros, etc., etc., et qu'à la fin, vous devez tant. Vous êtes endetté, etc. Donc vous-même vous lisez et vous vous rendez compte que oui, j'ai fait telle erreur, effectivement. Il n'arrive pas que vous voyez que oui, j'ai fait un chèque telle date, les voies de banque, oui, mais il ne m'a pas fait exprès. Il m'a fait le chèque, mais je n'avais pas l'intention de le faire. Non, on l'a fait, voilà, Chacun, il est conscient de ses erreurs. Pareil, le jour de la résurrection, chacun lira ses propres péchés et ses propres bonnes actions. Et celui qui verra plus de bonnes actions sera l'homme le plus heureux, tandis que celui qui verra des péchés, ce sera l'homme le plus malheureux. On a vu également la dernière fois, c'est qu'il y a deux semaines, avant qu'il y avait le Jalsa et la réunion pour la masjid, « فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقْ خُلِقَ مِمَّا إِنْ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ » Dans ce verset, Allah Azza wa Jal rappelle à l'homme de quoi il a été créé. Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée d'eau sortie entre les lombes et les côtes. Dans ce verset, Allah Ta'ala rappelle que l'homme, à la base, c'est une goutte de matière impure. Hein, là, on avait expliqué que la goutte de sperme, si ça tombe sur vos vêtements, vous ne pouvez même pas faire la salat avec. Parce que c'est impur. Inda al-ahnaf khasatan, ça c'est quelque chose d'impur. D'accord ? Et regardez, les mufassirins disent que voilà, ça prouve qu'à la base c'est impur. Et deuxième sifa qu'il y a également, c'est quelque chose de faible. Il y avait un commentaire, je l'avais en tête. بِأَنَّهُ مَا ضَعِيفُ السَّيَلَانِ لَيْسَ كَالْمَا إِلْعَلِي. Mais on peut dire également que c'est l'eau, le sperme est composé d'eau en majorité, que ce sperme-là, il y a la vie dedans. Bismillah, ça peut donner la vie, mais si ce liquide qui a été créé par Allah, qui est dans l'homme, pour procréer, bismillah, il est laissé quelques secondes à l'extérieur, ben toutes les je ne sais pas comment on appelle ça, les gamètes ou alors, qui peuvent donner la vie, ils meurent immédiatement. Ça prouve le caractère de barf, la faiblesse qu'il y a là-dedans. C'est bien, nous sommes créés de ça. À la base, nous sommes une goutte impure qu'Allah a décidé de nous donner le ruh, de nous donner la chance de vivre dans ce monde. Et ceux qui sont venus de ce monde, qui sont là maintenant, c'est qu'ils ont eu la chance de la part d'Allah d'avoir la santé, d'avoir leur capacité mentale également, et d'avoir le iman pour pouvoir se rendre ici, alhamdulillah. Et maintenant, cet être humain qui a reçu autant de bienfaits de la part d'Allah, s'il se met à accomplir des péchés, à désobéir délibérément Allah Azza wa Jal, à faire preuve d'orgueil, de fierté, à faire du mal aux gens, c'est comme si que cet être humain-là, il oublie qu'est-ce qu'il était à la base, qu'est-ce qu'il était à l'origine. C'est un poème, certains savants disent qu'ils parlent des gens qui sont orgueilleux, je ne me souviens plus des termes, ils disent que si l'être humain réfléchissait, à la base c'était une goutte impure, après il a grandi, mais à la fin il redeviendra poussière, sa chair va pourrir, ses os vont pourrir, il y aura des bêtes, des vers qui vont manger, des insectes qui vont manger son corps. Et durant ce laps de temps où il est sur ce dunya, il fait preuve de fierté, d'orgueil, il agit comme un tyran, il désobéit Allah, il oublie qui est son créateur. Comment un ingrat et cet homme est inconscient qui a oublié d'où il vient et où il va repartir. يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرِ. Et subhanallah, un petit rappel sur le tawhid al-rububiyya, sur l'unicité d'Allah de la création. Regardez le nom. Vous savez que le corps humain est composé majoritairement de liquide, d'eau. Je ne sais pas si 70% ou 80%, il faut bien demander à un médecin. Il y a le sang, il y a la moelle épinière, il y a pas mal de choses. C'est les médecins qui disent qu'on est composé essentiellement d'eau. Et subhanallah, regardez dans un même corps la quantité de liquides différents qu'il y a, et ces liquides-là ne se mélangent pas, et que tout ça permette à l'être humain de vivre normalement, de bénéficier de sa santé. Vous avez déjà vu quelqu'un qui souffre, qu'Allah nous protège, qui a de l'eau dans les poumons? Quelqu'un qui a de l'eau dans les poumons, une infection pulmonaire, la personne va à l'hôpital. Et ses jours sont en danger. Parce qu'il y a du liquide qui a pénétré dans ses bronches. C'est-à-dire que ce liquide-là, on est, subhanallah, paradoxalement, on est composé de à peu près 80% de liquide. Mais ce liquide-là, il peut circuler partout. Il y a du sang qui peut entrer dans le cœur, ressortir, etc. Mais il ne faut pas qu'il y en ait qui pénètre dans les bronches. Parce que si ça rentre dedans, c'est la catastrophe. Mais qui est-ce qui a coordonné le fonctionnement de l'homme de telle manière que ces liquides-là, ils fonctionnent, ils montent, ils descendent, il y en a qui évacuent, il y en a qui rentrent, il y en a qui recyclent, mais que ça ne rentre pas dans certains endroits, parce que si ça rentrait, ça provoquerait la mort de l'être humain. Regardez la perfection de la création d'Allah. Et comment quelqu'un peut-il renier l'existence du créateur de Dieu? Comment ces kuffar billah peuvent oser dire qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de créateur, ils appellent vers la laïcité, enfin laïcité c'est un mot gentil, mais l'athéisme qu'on ne peut pas accepter l'existence du créateur, etc. Avec cette petite boîte crânienne là, ce petit cerveau cervelé, on pourrait dire, l'être humain il ne connaît même pas son corps, comment il fonctionne. Il ne connaît pas comment le dunya fonctionne. Il n'a pas découvert toutes les terres qu'Allah a créées. Il n'a pas découvert toutes les créatures qu'Allah a créées. N'en parlons pas du système solaire, les galaxies, tout ce qu'il y a. On ne connaît strictement rien. Le peu de planètes dont on connaît l'existence, on n'y a jamais mis les pieds. Mis à part la Lune, et encore, si ce n'est pas un scénario hollywoodien. Allahu Akbar. D'accord ? Et on sait qu'il y a tant de voies lactées, il y a tant de soleils, il y a tant de galaxies. C'est à des années-lumière. Si on prenait une navette, on devait y aller, ça prendrait 1000 ans ou 2000 ans, mais personne ne peut, etc. On sait qu'il y a, mais on n'a jamais été, on ne sait pas qu'est-ce qui habite dessus, il habite pas Makhlouk ou pas de Makhlouk. Et avec le peu d'intelligence que l'être humain a, il ose proclamer, déclarer que tout ça, là même, ce qu'il y a au fond, là-bas, à 12 années-lumière, que jamais je pourrais voir, ça existe au hasard, ça. Il n'y a personne qui a fait. Quel imbécile. Il a raté toute sa vie, cet homme-là, qui réfléchit de la sorte. C'est, subhanallah, il a raté, khasira dunya wal akhira, ce dunya. Ça a été, il va le mener n'importe comment, et son akhira, ben, il n'y a pas de akhira. Donc, quand nous, on a iman, Allah Akbar. Je n'ai pas fait une demande préalable avant ma naissance, 40 jours avant que, ô cher Créateur, veuillez recevoir mon courrier par lequel je stipule, que je désire recevoir la foi en Allah. Non, on n'a pas demandé, c'est Allah qui a fait en sorte que lorsque je nais, soit je nais de parents musulmans, alhamdulillah, qui m'enseignent la shahada, ou alors, après la période de fitra, si ce n'était pas des parents musulmans, que durant ma vie, Allah m'a permis de yukhrijuhum min al-zulumati ila an-nur, de sortir de l'obscurité pour venir vers la lumière. Donc quand on a shahada, le kalima, la ilaha illallah dans notre cœur, mes chers frères, c'est un trésor inestimable. C'est un trésor immense qui ne s'achète pas. Mais c'est un trésor dont on ne connaît pas la durée de vie. Personne n'a la garantie de mourir avec iman. C'est ça qui est ennuyant. C'est bien qu'on soit musulman, mais ce qui est plus gênant, c'est que personne ici n'a la garantie de mourir avec la ilaha illallah, de mourir musulman. Ça, Allah seul le sait. On n'est pas pessimiste, hein. On ne fait que relater lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il y a des gens qui, durant toute leur vie, accomplissent des actions des gens du paradis, mais avant de mourir, ils font une action des gens de l'enfer et Allah décide de les envoyer dans l'enfer. Il y a des mu'mines qui, toute leur vie, ils font des bonnes actions. Pourquoi? Je ne sais pas. Ça, c'est la sagesse d'Allah. Avant de mourir, Allah ta'ala le donne. Je n'ai pas le tawfiq, mais Allah les choisit pour faire quelque chose de mauvais et de mourir dans le mauvais chemin, et ce seront des ahlin nar. Donc c'est pour ça que dans la salat on demande ihdina as-sirat al-mustaqim. C'est pas pour rien si on demande Allah ihdina, c'est pas abqina ou garde-nous dans le droit chemin. Non, ihdina, guidez-nous vers le droit chemin, et ça veut dire qu'on demande à Allah talabul istiqama, qu'Allah nous garde dans ce droit chemin, que jusqu'à ce que je meure avec la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, faut qu'Allah m'accepte. هذا فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. La leçon qu'on commence aujourd'hui, c'est إنه على رجعه لقادر. Allah est certes capable de le ressusciter. Dans ce verset, Allah Ta'ala nous rappelle sa qudra. Allah Ta'ala est capable de ressusciter. Alors ce verset avec d'autres, dans d'autres Sipara, dans d'autres versets, dans d'autres sourates du Coran, permet à l'homme de réfléchir sur le caractère cohérent de la résurrection. À partir du moment où une personne reconnaît qu'il a été créé par Allah, obligatoirement, ça, la logique veut que si j'ai été créé, la résurrection est possible. Car Allah dit Coran, wa huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala a créé l'être humain à partir de rien. Alors, comprenons, la logique veut que le fait qu'Allah redonne vie à partir de quelque chose qui a déjà existé, c'est plus facile que de créer à partir du néant. C'est un peu compliqué, ça. C'est un peu de mantiq, que l'on fasse dire, un peu de logique. Dit que Allah nous a créés alors qu'on n'existait pas. Il n'y avait pas de traces de Salih, de Abdel Aziz, de Ahmed, d'Ismaïl. Non. Allah nous a créés à partir de rien. Mais si Allah était capable de nous créer à partir de zéro, ben quand on meurt, il reste des ossements. Vous savez qu'il y a des parties du corps qui ne sont pas mangées par la terre. Donc Allah redonne vie à partir de ce qui existe déjà. C'est ahwan. C'est plus facile pour Allah que la première étape qui était de créer à partir de rien. Un peu compliqué. Donc par la logique, nous voyons que la résurrection, c'est plus facile pour Allah que la création du début. Donc n'importe quelle personne qui réfléchit, déjà qui arrive à reconnaître qu'il a été créé par Allah, ne peut pas refuter la résurrection. Quelqu'un, comme les koufars, les mouchriquins à l'époque du prophète, ils disaient que, ah, je n'ai pas le verset en tête, si quelqu'un me le rappelle, « إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمخرجون لمبعوثون لمبعوثون بارك الله فيك » Les mécréants, ils reprochaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient comment, dans ce sens, il y a d'autres versets encore, comment est-ce que cet homme peut proclamer qu'une fois qu'on aura vécu sur cette terre, ce dunya, et qu'on sera mort, et que notre corps sera réduit en poussière, comment pouvez-vous dire, comment le prophète Mahomet, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, peut dire que nous serons ressuscités, alors que nous serons déjà en poussière? C'est-à-dire qu'ils n'ont pas poussé loin leur esprit logique. Pour eux, ce n'est pas possible. Quand quelqu'un est mort, il ne peut pas être ressuscité. Oui, mais réfléchissez plus loin. Avant, vous n'existiez même pas. Il y avait zéro trace de vous. Allah vous a créé du néant, vous a mis sur ce dunya. Maintenant qu'on vous dit que quand vous mourrez, vous êtes cendre et du ensemble, il reste des traces du corps et qu'Allah redonne vie à partir de ça. C'est pour ça que ce verset fait appel à la logique, à l'esprit cohérent de l'être humain. Si vous acceptez, vous êtes d'accord, vous reconnaissez que c'est Allah qui vous a créé, donc vous devez encore plus facilement accepter le fait que de ce qui restera de vos corps, Allah est capable de redonner vie. Et quand Allah, innahu ala raj'i laqadir, quand Allah redonne vie, c'est dans quel but? C'est uniquement pour juger les personnes sur la manière dont ils ont passé leur vie dans ce dunya. Yawma tubla sarair. Alors ça, c'est un verset, ça fait mal ça. Le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets. Yawma tubla sarair, fama lahu min quwwatin wala nasir. Et ça, c'est encore plus gênant, encore plus difficile. On a dit le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets, virgule, il n'aura alors ni force ni secours. On terminera avec ces deux versets pour ce soir. Dans ces deux versets, Allah Azza wa Jal rappelle l'étape de la résurrection. Et Allah rappelle deux choses. Premièrement, que lorsqu'on se présente devant Allah, Allah ne nous juge pas sur notre apparence. Non. Allah nous juge sur ce qu'il y a dans les cœurs. Parce que, il faut le rappeler, que Allah est le seul qui peut juger une créature en fonction de ce qu'il y a dans son cœur. Parce qu'Allah, c'est le seul qui connaît ce qu'il y a dans le cœur de l'être humain. Allah, c'est le seul qui connaît l'intention qu'on a. Allah connaît, c'est le seul qui sait que deux personnes qui ont accompli le même péché, par exemple deux personnes qui ne se sont pas réveillées pour la salat ce matin, par exemple, Allah il connaît qui sait qui avait l'intention de se réveiller, mais qui malheureusement n'a pas pu le faire, de celui qui n'avait pas même à la base l'intention de le faire. Allah il connaît que pour une même erreur accomplie, qui sait qui avait une raison valable et qui sait qui n'avait aucune raison, qui a prémédité le péché. Que pour un même tawba demandé, Allah il connaît à qui il va accorder son pardon et quelle personne n'aura même pas le tawfir de demander pardon à Allah. C'est-à-dire le jour de la résurrection, notre prophète alayhi salatu wassalam nous rappelle que chaque être humain sera appelé auprès d'Allah, le tribunal d'Allah, et chaque personne sera appelée par son nom et le nom de son père, pour être sûr que ce soit cette personne. Et lorsque l'être humain se présente devant Allah, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a même pas un ange qui va faire l'intermédiaire. Non, ce sera une conversation directe entre la créature et son créateur. Et comme ça, Allah va appeler tous les êtres humains. Depuis Adam, alayhi salam, jusqu'au dernier des hommes, Allah va appeler n'importe quel zuruh, n'importe quelle personne qui avait ruh dans son cœur et qui a habité dans ce monde, à qui Allah a donné la possibilité de vivre, donc pour être éprouvé, est-ce qu'il suit le droit chemin ou alors il va vers les péchés. Et à ce moment précis, oublions les excuses, oublions les motifs qui n'ont ni queue ni tête pour ne pas faire des bonnes actions ou ceux qui a pu nous pousser à accomplir des péchés. Dans un verset du Coran, Allah Ta'ala parle d'une personne qui sera ressuscitée. Alhamdulillah. Et qui aura fait des péchés durant sa vie et qui le jour de Qiyama dira à Allah que ben, dans l'endroit où j'habitais, je n'avais pas d'autre alternative que de faire tel péché. Hein, il va se justifier par rapport à l'environnement. Parce que beaucoup de gens ils disent ici, oui mais ici pas pareil, le contexte, donc ils font des péchés. Et le Coran dit que ce qui lui sera reproché, alam takun ardullahi wasi'atan fa fatuhajiru fiha. Allah rappellera cette personne, oui, dans l'endroit où tu habitais, certes, le contexte était favorable, c'est moi qui dis, hein, c'est pas le verset, traduction, hein, le contexte était certes favorable pour faire des péchés. Mais est-ce que la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste pour aller ailleurs, donc pour s'éloigner de la source des péchés? Donc l'être humain, il se dit que je vais dire telle chose, mais le jour de Qiyama, hein, ces excuses-là ne passent pas auprès du tribunal d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans d'autres hadiths, le prophète alayhi salatu wasalam dit qu'une personne se verra reprocher, ah, c'est plus dur, là on touche un haut niveau, là, un haut niveau de mu'min, pas le note, hein, un niveau plus haut. Allah ta'ala reprochera une personne qui avait vu son prochain accomplir des péchés. Lui, il ne fait pas de péché, hein, pas comme nous. Lui, il ne fait pas de péché. Il a vu un autre musulman faire un péché, mais ce musulman-là n'a pas fait le rappel à son frère en islam. Il ne l'a pas rappelé que oh, mon frère, tu es dans le péché. Non, moi, je viens à la salah. Je viens à la salah, je marche, et je vois un musulman qui est dans son magasin, ou quelqu'un qui est en voiture et tout, il s'éloigne de la masjid. D'accord ? Et c'est un péché de s'éloigner d'un endroit où la adhan a été donnée sans compter à la salah. Illa al-ma'zour, celui qui a une raison, il est malade, va à l'hôpital, ça, ah, là, rien. Ça y est ? Et donc, quand on voit une personne, alors même je vois quelqu'un faire un péché, on voit un musulman en train de boire, ou alors un jeune garçon musulman, on achète le clé avec sa cantine ou machin et tout, en train de marcher. Nous, instinctivement, on ne fait pas le rappel, chacun sa vie, chacun son problème, chacun son chacun, comme il dit, d'accord. Il sera reproché à la personne, pourquoi est-ce que tu n'as pas fait le rappel à ton prochain? Le amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar. Et la personne dira que oui, pour telle raison et tout. Et Allah Ta'ala reprochera la personne. En ce sens, kuntu ahaqqu an, hein, c'est de moi que tu devais avoir peur et non pas des gens. Il y a personne n'a pas fait le rappel par crainte des gens. La réaction, ce que les gens vont dire. Tu as dit à la personne que c'est moi que tu devais avoir peur et non pas de ces créatures. À travers ces deux exemples, il y en a beaucoup, hein, mais ça ne me revient pas pour l'instant. C'est-à-dire que l'être humain n'aura pas d'excuse devant le tribunal d'Allah. Celui qui a une excuse, il sera d'office pardonné par Allah. Je ne sais pas qu'il va voir le péché dans son livret de compte et Allah lui demandera, dit voilà, j'avais telle excuse. Allah dit, ah d'accord, donc c'est bon, tu es pardonné. Non, si Allah il savait que la personne était ma'adour, la personne avait une raison valable, Allah aura déjà pardonné ses péchés dans cette vie. Donc on comprend bien que les erreurs qu'on a accomplies, ben Allah il le sait et on n'aura pas d'excuse le jour de prière, premièrement. Et deuxièmement, à travers le verset Yom Atoub al-Sara, et nous comprenons que les mauvaises choses qu'il y a dans le cœur, hein, les saletés, les défauts qu'on a intérieurement et que personne ne sait. Vous savez, souvent il y a l'apparence. Bon musulman, masjid, grand bar, parfait, faites le moulissa aussi, hein, personne n'est à l'abri du péché. Ça c'est l'apparence. Et puis dedans c'est sale. C'est comme une grille avec plein de trous. Il y a plein de trous de ce iman-là. Il y a des infiltrations. On n'a pas fait, comment ça, le ravalement, on n'a pas fait l'étanchéité, on n'a pas fait tout ça. Il y a plein de péchés qui rentrent et qui pourrissent le cœur. Et que le cœur de la personne, en réalité, d'apparence, elle est brillante, elle est belle, avec sa grande barbe, avec son grand katni, etc., etc. Mais dans le fond, c'est un iman qui est pourri, parce que c'est un homme jaloux, c'est un homme fier, il est orgueilleux, il est grossier avec sa femme et ses enfants, il est comme ci, il est comme ça, c'est-à-dire intérieurement, on ne sait pas ce qui se passe dans ce cœur et dans la tête de cette personne. Mais je peux le cacher aux gens. Tout le monde, il va dire, ah, c'est un bon marmaï, c'est un bon bouc, ça l'aimait. Ça c'est pieux, ça c'est un salih, ça c'est notre fundi, ça c'est notre mufti, etc., etc. Mais intérieurement, c'est Bagdad. C'est la guerre, c'est n'importe quoi dedans. D'accord ? Allah musta'an. Auprès des... Il y a un jeune qui a dit ça sur Facebook, qui a passé la chanson, et je ne cautionne pas, hein, d'accord, que dans ma tête c'est comme Bagdad. Très. Et donc, dans ce dunya, je peux cacher aux gens mes défauts. Je peux faire en sorte de ne présenter que les bonnes facettes de ma personnalité, laisser croire aux gens que je suis quelqu'un de bien. Mais le sara'ir, ce qu'il y a dedans, Allah seul le sait. Et le jour de Qiyama, malheureusement, on n'est pas jugé que par rapport aux faciès et les actions qu'on a faites zahiran. Non, on est jugé également par rapport à ce qu'il y avait dans ce cœur. Vous savez qu'il y a des péchés intérieurs qui sont plus néfastes que des péchés extérieurs. Un exemple, et dites-moi si personne, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est protégé de ça? Ou si quelqu'un n'a pas déjà fait ce péché, dites-moi, celui qui est comme ça, je fais bien sur sa main tout de suite. D'accord? La jalousie. Lorsque le prophète Ali Sallallahu Alaihi Wasallam nous dit que la jalousie détruit les bonnes actions comme le feu détruit les brindilles, le bois sec. Qui parmi nous peut se dire que moi je ne suis pas jaloux, moi je ne suis pas fier, je ne suis pas orgueilleux, je ne suis pas comme ci, je ne suis pas comme ça, j'ai toujours de bonnes pensées, etc., etc. Personne. Personne n'a la garantie que son cœur est pur intérieurement. C'est pour ça qu'on doit toujours demander à Allah Azza wa Jal de donner les qualités des mu'min salih. De ne pas se dire que moi c'est bon, moi je suis sauvé, moi je fais mes 5 salats, je lis le Coran et tout, je suis un bon musulman. Non, je pense être un bon musulman, mais il y a parfois des péchés qui sont intérieurs, qui sont à l'intérieur et qui détruisent tout ce qu'on fait de manière extérieure. Et Allah seul sait qui c'est qui a ces mots, M-A-U-X, dans son iman de son cœur. Et le jour de Qiyamah, c'est Yawm Atoub Lassara'il. Toutes les saletés qu'on avait cumulées intérieurement, qu'on ne laissait pas les gens voir, mais qui restaient et qu'on ne faisait pas d'efforts pour éliminer non plus, on ne demandait pas Tawba, on ne demandait pas à Allah de nous tawfiq, de délaisser ça, ben ces choses-là vont apparaître et Allah nous jugera également, Allahu musta'an, par rapport à ces erreurs. Et à travers ce verset, on terminera avec ça, on est 35 minutes, 36 minutes, encore 4 minutes, Inch'Allah, ça nous fera une mi-temps de rugby, tout en restant courtois. À travers ce verset, nous comprenons également qu'il y a deux facettes de l'être humain. Il y a l'extérieur et il y a l'intérieur. Les actions extérieures, nous les accomplissons. Alhamdulillah, pour ceux qui le font. Mais intérieurement, il faut faire très attention aux péchés qu'on a cités. Et intérieurement, il faut faire le maximum pour acquérir les qualités, on appelle ça les ibadatul qulub, les adorations du cœur. Isti'ana billah, khawf min Allah, khashyatullah, taqwallah. Il y a la confiance en Allah, la crainte d'Allah, ta'zimullah, la grandeur d'Allah dans le cœur, etc. Ça, c'est des choses que le musulman doit absolument développer. Si quelqu'un fait beaucoup de bonnes actions, mais dans son cœur, il n'y a pas un gramme de tawakkal à Allah. Il n'a pas confiance en Allah. Ou alors que lorsqu'il a un problème, il n'a pas la qualité, le ibad al-isti'an. Alors qu'on dit, yaka na'abudu wa yaka nasta'in, c'est auprès de toi que nous cherchons refuge, secours. Ça doit être un réflexe, ça. J'ai un problème, salat raka'atayn. Je fais mes 2 rakats, je m'oriente vers Allah, je lui demande de l'aide avant d'aller voir X, Y, Z. Si je n'ai pas cette qualité, ça veut dire que je n'ai pas un iman complet. Même si j'ai la grande barbe, j'ai les vêtements, j'ai tout ce qu'il faut, je suis descendant d'une grande famille, je suis hafid le Coran et tout. Mais si dans mon cœur il y a des manquements concernant ces bonnes actions intérieures, mon iman n'est pas complet. Tout comme si dans mon cœur il y a des péchés, comme on a dit tout à l'heure, des péchés intérieurs, mon iman n'est pas complet. Et c'est des péchés parfois qui peuvent me causer énormément de préjudice. D'où l'importance de faire une analyse de son intérieur. Le prophète avait envoyé également de ce but le tazkiya, ويزكيهم, de faire le nettoyage intérieur de tous les péchés qu'il y a dans le cœur. Et cela, on le fait à la lumière des hadiths, à la lumière des versets du Coran, en essayant de comprendre. On peut avoir pour cela, on peut avoir recours à un alim, un savant, qui nous indiquera quels sont les péchés à éviter, quels sont les péchés cachés, dont on ne sait même pas l'existence, quelles sont les qualités que nous devons acquérir, qualités que parfois on ne pense même pas qu'on devait les avoir, qui nous guide, qui essaie de nous faire comprendre qu'est-ce qu'on doit développer intérieurement et qu'est-ce qu'on doit enlever du cœur intérieurement. Mais toujours en restant à l'al-manhaj sahih, toujours en restant dans le mode de vie que notre prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam nous enseignait, dans son enseignement. Ce que je voulais dire, c'est rester dans l'enseignement prophétique. Purifier notre intérieur. Oui, nous en avons tous besoin, mais ne rien rajouter. Ne pas ajouter de ibada ou de forme de culte que le prophète n'a pas amené. Parce que notre prophète Ali sallallahu alayhi wa sallam a bien dit, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd. Même si quelqu'un fait beaucoup d'une action particulière, mais que Abu Bakr n'a pas fait, Omar n'a pas fait, Uthman n'a pas fait, ni Ali, mais cette action-là n'est pas acceptée par Allah. Donc faire des actions, oui, même se purifier intérieurement, oui, mais toujours vérifier ce qu'on fait, est-ce que c'est conforme à l'enseignement prophétique. Si c'est conforme, alhamdulillah, on aura fait notre effort pour essayer de purifier notre intérieur. Et le dernier verset qu'on a dit, on lit les deux ensemble, on rappelle, Allah essaie d'être capable de le ressusciter. Le jour où les cœurs dévoileront leurs secrets, il n'aura alors ni force, ni secoureur. Ça, il n'y a même pas besoin de commenter. Ma'alahu min quwwatin wala Voilà, non, seule personne n'aura la. Jour du Qiyama, on peut être fort physiquement ici de ce dunya, on peut être fort, on a un impact, hein, sur le plan économique, on est une famille très riche, aisée, etc. Voilà, on a une renommée, une famille très connue. On peut avoir notre quwwa dans ce dunya. Mais le jour du Qiyama, on n'a pas ce quwwa. Cette force qu'on avait de ce dunya, ben, il a été enterré avec nous et il est resté sous la terre. Le jour du Qiyama, il n'y a pas de grand, de petit, de fort, de costaud, de maigre. Il n'y a pas de riche, de pauvre, de classe moyenne. Il n'y a pas de pays émergents, de pays riches, de tiers-monde. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a que iman ou billah et amal ou salih abbas, la foi en Allah et les actes. C'est pour ça que le jour du Qiyama, il n'y a pas d'autre force que ça. C'est la force de notre iman et de nos actions. Et bien sûr, il n'y a pas de nasir, il n'y a pas d'aide. On ne va pas demander un tel de nous aider. Les versets du Coran sont très nombreux. Hein, le mari appelle sa femme, hein, le papa appelle son enfant, l'enfant appelle son papa. Les hadiths expliquent, ils demanderont une action. Ils vont demander de l'aide. Parfois, on a besoin d'une hasanat pour nous aider à nous en sortir le jour de la résurrection. Mais en ce jour, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا Voilà, Banoun. C'est à peu près le même sens que Kouwation wala Nasir. Pas de force, ni d'aide. La infa'uman wala Banoun, ni vos biens ne vous seront quelconque utilité, ni vos enfants, votre descendance, les générations qui sont venues après. Le jour de Qiyamah devant Allah Azza wa Jal, ce qu'il y a dedans, il ressort, même si on aurait souhaité que ça reste, mais non, devant Allah, ça ressort. Et deuxièmement, personne ne peut nous aider. Personne ne peut solliciter de l'aide. Ni obtenir de l'aide le jour de Qiyamah, c'est entre nous et Allah. Mais bien sûr, il y a une personne qui peut nous aider le jour de Qiyamah. Une seule créature, c'est qui? Qui peut nous aider? Nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Par le biais du Ash-Shafa'a. C'est pour ça que nous devons toujours demander à Allah de nous accorder la Shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand nous demandons à Allah des du'as, on demande dunya. Mais pas que le dunya, on demande le akhirat, il faut penser à notre résurrection, notre mort, notre résurrection, et qu'Allah nous accorde l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah nous permet d'accéder au paradis par l'intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou même l'idéal, c'est l'accès au paradis, dirai le hisab sans avoir encore. Maintenant, mes chers frères, hein, soyons conscients, soyons cohérents, est-ce que moi, musulman, qui m'éloigne de la sunna, d'accord, si tous les matins, je prends mon gilet trois lames et je me rase de près, quand je m'habille, mes pantalons sont au-dessous de la cheville. Dans ma manière de travailler, je vais à l'encontre de l'enseignement prophétique. Dans mes relations avec les gens, c'est contraire au Coran et Sunna. Est-ce que je veux de Qiyamah? Vous pensez que je peux solliciter l'aide de cet homme? Modèle que je n'ai pas voulu suivre parce que je voulais vivre à l'occidental. Je voulais être comme tout le monde. On parle d'intégration. C'est comme si que si je suis barbu, je peux pas être intégré. C'est quoi ces histoires-là? D'accord? Si je me suis éloigné du mode de vie d'une personne, à la fin, quand le match est terminé, hein, j'attends que la personne vienne m'aider, vienne me gratifier. Il faut être un peu cohérent aussi. Allah aura pitié de nous, Inch'Allah, et qu'on comprenne bien que plus on va suivre la sunna du prophète, mais Inch'Allah, on augmente nos chances d'être reconnus, d'être acceptés par notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah Azza wa Jal dit hein, clairement que hein, celui qui imite un peuple fera partie. Si nous imitons notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans son mode de vie, Inch'Allah, nous serons avec lui le jour de Qiyamah. Tandis que si nos modèles c'était d'autres personnes, ben, il faut craindre d'être ressuscité avec ces gens qu'Allah nous protège, nous offrir, d'accomplir les bonnes actions, le maximum de bonnes actions, de nous éloigner des péchés, de faire les bonnes actions extérieures et intérieures, de nous éloigner des péchés extérieurs mais également des péchés intérieurs, qu'Allah nous accorde la mort avec iman et nous accorde son paradis. On va s'arrêter à là, Inch'Allah. Et la prochaine fois, on va terminer avec Wassama idat al-raj'i wal-ard idat al-sol. Jusqu'à compléter le surat, Inch'Allah. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Jazakallah.